Les récits bibliques ont-ils une vérité historique? L'archéologie peut-elle confirmer ou infirmer les événements mentionnés dans la Bible, au moins dans certains de ses livres? Pour apporter des éléments de réponse à vous qui nous écoutez aujourd'hui, Michael Langlois, un jeune chercheur et professeur, est venu partager les résultats de son travail et parler en particulier des manuscrits de la Mer Morte, les manuscrits de Qumran. Bonjour Michael, vous êtes chercheur associé au CNRS et au Collège de France, enseignant à l'Université de Strasbourg. Passionné de Bible et d'archéologie, pour mener vos travaux, vous vous êtes aussi lancé dans l'apprentissage de langues anciennes, le grec, l'hébreu et beaucoup d'autres, comme l'araméen, le phénicien, une dizaine, m'a-t-on dit. Dans une première conférence, le 17 janvier, vous avez déjà enthousiasmé plus de 200 personnes qui ont eu la chance de vous écouter à la médiathèque d'Orléans. Mais pour les personnes qui n'ont pu vous entendre, pourriez-vous, avant de nous livrer quelques-uns des secrets des manuscrits de Qumran, rappeler brièvement quelques-unes de vos découvertes qui contribuent à replacer la Bible dans son contexte historique?
Ah oui, alors dans la première conférence, j'ai essayé de présenter les découvertes archéologiques majeures qui nous permettent de mieux comprendre la Bible. J'ai choisi des découvertes emblématiques qui en plus correspondent à différentes périodes de l'histoire de la Bible. Oui. J'ai commencé au début du deuxième millénaire avant notre ère avec la stèle du roi Hammurabi, qui est un texte juridique, c'est un ensemble, un code de loi, un peu comme le code civil français avec des articles, article 53, article 212, etc.
En quoi a-t-il pu avoir une influence sur le texte biblique?
Ben alors justement, c'est ce qui a frappé les spécialistes qui ont déchiffré ce texte pour la première fois, ça a été la proximité avec les lois que l'on trouve dans la Bible. Dans le Pentateuque, dans ce qu'on appelle la loi de Moïse, eh bien on trouve dans le livre de l'Exode, du Lévitique, etc., on trouve tout un tas de lois qui régissent la vie civile. Si deux personnes se battent, si quelqu'un veut se vendre comme esclave, etc. Enfin, il y a tout un tas de cas qui sont traités, on appelle ça des lois casuistiques, et on s'est rendu compte que pour certaines d'entre elles, eh bien, c'était pratiquement mot pour mot ce que l'on trouve dans le code d'Hammurabi qui est de plusieurs siècles antérieurs.
Donc, ça faisait partie de la culture de l'époque, en quelque sorte.
Absolument, ça nous montre que les auteurs de la Bible connaissaient les textes qui étaient dans leur patrimoine culturel, qu'ils s'en inspiraient, qu'ils les utilisaient, qu'ils les intégraient. Ils ont travaillé à partir de ces traditions pour façonner leur propre tradition.
Un autre exemple peut-être?
Oui, alors après avoir étudié ce premier exemple, j'ai proposé un deuxième exemple qui est cette fois-ci vers la fin du deuxième millénaire. C'est la découverte d'un site archéologique qu'on appelle Ougarit, qui est aujourd'hui en Syrie face à l'île de Chypre, hein, pas loin de Latakié. Et ce site est fabuleux parce qu'il a notamment livré un certain nombre de textes à caractère mythologique, des textes religieux qui nous parlent de divinités qui sont mentionnées dans la Bible. Le dieu Baal, la déesse Asherah, etc. Et donc on apprend leurs mésaventures, leurs combats, tout un tas de légendes, de mythes et de légendes qui se retrouvent également dans la Bible.
Donc la Bible n'était pas étrangère à son époque, au contraire, et elle en est tout imprégnée. Vous aviez dit lors de cette conférence que les archéologues cherchent parfois à confirmer ce qu'ils ont lu dans la Bible. Mais inversement, des travaux archéologiques peuvent conduire à une découverte tout à fait fortuite et confirmer des choses qui se trouvent dans la Bible.
Oui, alors c'est-à-dire qu'il y a un problème de méthodologie au niveau de l'archéologie. C'est vrai que les premiers explorateurs qui ont été en Orient, pour la plupart, cherchaient des découvertes qui pouvaient éclairer le texte biblique. Et quand je dis éclairer, pour certains d'entre eux, le but c'était effectivement de confirmer à tout prix le texte biblique. On appelle ça l'archéologie biblique du coup. Et ça pose un problème de méthodologie puisque si on va sur un site avec sa Bible à la main en disant qu'est-ce que je peux trouver qui peut confirmer ce que je lis dans ma Bible, ça veut dire qu'on est quelque part, on sait déjà ce qu'on veut chercher. On n'est pas suffisamment objectif. Aujourd'hui, l'archéologie s'est vraiment émancipée. C'est une science à part entière avec ses propres méthodes, en particulier beaucoup de technologies nouvelles sont mises à profit dans l'archéologie. Il ne s'agit plus de partir avec sa Bible à la main pour chercher à tout prix à légitimer le texte biblique. Il s'agit de faire un travail d'historien, de s'intéresser aux civilisations de l'Orient ancien et Accessoirement, si ces civilisations nous apportent des informations sur la Bible, eh bien c'est tant mieux. Et ensuite, ces informations peuvent tantôt confirmer ce que dit le texte biblique ou parfois le corriger.
Eh bien, merci pour ce panorama qui va nous permettre de mieux comprendre ce que vous allez nous dire sur les manuscrits de Qumran. Dans le cadre de cette émission « Croire aujourd'hui », vous avez la chance d'entendre Michael Langlois, spécialiste des manuscrits de Qumran. Alors, quelle est l'importance de cette découverte qui remonte, je crois, à 1947 ?
Oui, absolument. Alors, la découverte des manuscrits de la Mer Morte, c'est la plus grande découverte archéologique du XXe siècle en rapport avec la Bible. À vrai dire, c'est même la première fois qu'on a découvert des manuscrits bibliques plus anciens que le manuscrit hébreu traditionnel de la Bible hébraïque. C'est-à-dire que jusqu'alors, lorsque l'on étudiait la Bible hébraïque, lorsqu'on la traduisait en français par exemple, eh bien, on se basait sur un texte qui datait de l'an 1000 de notre ère à peu près. C'est la date de la plus ancienne Bible hébraïque complète. On n'avait aucun texte plus ancien que cela. Alors, c'est vrai que l'an 1000 de notre ère, c'est déjà ancien par rapport à aujourd'hui.
Ça faisait déjà, donc, une longue durée par rapport à la date de rédaction de ces textes.
Voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'en même temps, l'an 1000 de notre ère, c'est 1000, 1500 ans, 2000 ans plus tard que la rédaction supposée de ces textes. Donc, on émettait des hypothèses sur la rédaction, sur peut-être un état antérieur du texte, sur les... Jusqu'alors, ça n'était que des hypothèses. Pour la première fois, on a découvert des manuscrits qui préservent le texte de la Bible hébraïque, mais 1000 ans plus anciens que ces manuscrits qu'on avait.
Donc, ils ne sont pas contemporains de la rédaction, mais ce sont des manuscrits très anciens, et donc plus fiables peut-être.
Alors plus fiables, oui, c'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, ils sont plus anciens. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils présentent des différences par rapport au texte que l'on connaissait. Pour certains d'entre eux, les différences sont très minimes. C'est-à-dire, on s'est rendu compte d'une part que le texte de la Bible hébraïque que l'on connaissait, il correspondait à une famille, à une tradition, on va dire, qui était assez stable. C'est-à-dire que siècle après siècle, les scribes étaient très vigilants dans la recopie du texte biblique. Et à Qumran, on a découvert des manuscrits en hébreu qui sont pratiquement identiques au texte que l'on connaissait auparavant et qui était donc 1000 ans plus tard. Ça veut dire qu'en 1000 ans, le texte n'a pas beaucoup bougé. Mais à côté de ces textes qui correspondaient à la tradition que l'on connaissait, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait des textes qui préservaient d'autres traditions textuelles. Et il y a des manuscrits qui, par exemple, correspondent à une tradition qui était connue, non pas en hébreu, mais à travers le grec, dans certaines communautés, et notamment dans des communautés chrétiennes. Et ça, c'est la grande révolution, puisque jusqu'alors, c'était une version, pourrait-on dire, des manuscrits, des livres de la Bible qui étaient connus en grec, et on pouvait se poser la question en disant, tiens, ces variantes, les différences qu'on observe entre le grec et l'hébreu, est-ce que c'est le fait du traducteur ? Ouais, on peut se poser la question, c'est peut-être le traducteur qui était peut-être farfelu, ou peut-être qui a eu du mal à traduire le texte hébreu, alors il a traduit comme ça. En réalité, maintenant, on a la preuve que dans bien des cas, le traducteur était très sérieux, faisait une traduction pratiquement mot à mot, mais que le texte hébreu qu'il avait sous les yeux était différent du texte hébreu que nous connaissions. Et maintenant, ce texte hébreu qui lui a servi de source, eh bien, nous l'avons grâce aux manuscrits de la Mer Morte.
Ces manuscrits, donc, sont importants. Vous pouvez donner une petite idée de leur importance, ne serait-ce qu'en volume ?
Oui, alors les manuscrits bibliques représentent à peu près le quart des manuscrits qui ont été découverts à Qumran. Au total, on dénombre un peu plus de 900 manuscrits au total, et parmi eux, environ 230, c'est des chiffres approximatifs que je vous donne, préservent des livres de la Bible hébraïque.
Alors, quels sont ces livres redécouverts dans les manuscrits ?
Alors, les trois autres quarts des manuscrits de Qumran, effectivement, sont des livres qui ne sont pas dans la Bible hébraïque. Alors, pour certains, on les connaissait déjà. Certains, d'ailleurs, ont été inclus dans des bibles chrétiennes. La sagesse de Ben Sira, le Siracide, le livre de Tobit par exemple. On pourrait citer comme ça d'autres livres qui sont dans certaines bibles chrétiennes et qui n'ont pas été acceptés dans la Bible hébraïque, qui n'ont pas été retenus dans la Bible hébraïque. Ces livres-là, on les connaissait pour la plupart dans des traductions. On avait perdu l'original hébreu ou araméen. Souvent, on avait des versions grecques, des versions latines, des versions éthiopiennes anciennes. C'est le cas, par exemple, du livre d'Enoch ou du livre des Jubilés, qui était connu en éthiopien. Mais on n'avait plus le texte original. Or là, à Qumran, pour la première fois, vous pouvez lire le livre de Tobit en araméen, en hébreu. Vous pouvez lire le livre du Siracide en hébreu. Vous pouvez lire le livre d'Enoch en araméen, pour la première fois.
Donc, des découvertes d'une importance vraiment capitale pour le fond biblique utilisé aujourd'hui.
Absolument, c'est-à-dire que toute cette littérature était connue à l'époque. On se rend compte à l'heure actuelle que, en fait, même si ces livres n'ont pas forcément été retenus dans telle ou telle Bible, c'est pas forcément parce que ces livres étaient méconnus. C'est au contraire, on se rend compte qu'ils étaient mieux connus que ce qu'on pouvait l'imaginer. Et ça confirme d'ailleurs les soupçons qu'on pouvait avoir. Je vous donne l'exemple du livre d'Enoch. Le livre d'Enoch, il est dans la Bible éthiopienne. C'est la seule église qui a inclus le livre d'Enoch dans sa Bible. Si vous ouvrez votre Bible française aujourd'hui, vous ne trouverez pas le livre d'Enoch. Et donc, on pourrait se dire finalement, mais d'où sort ce livre et est-ce que vraiment ce livre était connu? Est-ce que ça vaut la peine qu'on s'y intéresse? Eh bien, figurez-vous qu'à Qumran, on recense plus d'une douzaine d'exemplaires du livre d'Enoch. Ça veut dire que c'est un livre qui était connu, copié, recopié. Et ça confirme les soupçons qu'on pouvait avoir rien qu'en regardant du côté du Nouveau Testament, puisque dans l'épître de Jude, on cite le livre d'Enoch. Au verset 14 et 15, on dit « Ainsi a prophétisé Enoch, le septième depuis Adam, deux points ouvrez les guillemets. » Et là, l'auteur de l'épître cite Enoch, le livre d'Enoch, chapitre 1er, verset 9. Et ça veut dire que pour cet auteur et, je dirais, pour ses lecteurs, la communauté qui le suit, eh bien, le livre d'Enoch était connu, il était apprécié, il était lu et il avait une certaine autorité. Ça, c'est des soupçons, peut-être des hypothèses qu'on pouvait avoir, mais c'était très difficile d'en avoir la preuve. Aujourd'hui, grâce à Qumran, on en a la preuve.
Eh bien, nous allons poursuivre en vous posant la question, y a-t-il des liens entre ces textes découverts et le Nouveau Testament que nous lisons aujourd'hui?
Oui, alors l'exemple que je viens de vous donner est un bel exemple. C'est-à-dire que, ça prouve qu'on ne peut pas lire le Nouveau Testament si on ne comprend pas l'univers des auteurs du Nouveau Testament, si on ne comprend pas leur environnement, leur monde, leur culture, leur littérature, leur tradition. Et quand on voit un texte, justement comme l'épître de Jude, qui cite le livre d'Enoch, sans prendre soin de dire « Ah oui, au fait, vous ne connaissez peut-être pas Enoch, mais c'est... » Non, pas du tout, il cite Enoch.
C'est partie de la culture.
Absolument, il cite Enoch comme il aurait cité Isaïe ou Jérémie, par exemple. Ça veut dire qu'il suppose, de la part de ses lecteurs, une familiarité avec ces textes. Et ça veut dire que si nous-mêmes, nous voulons comprendre ces textes du Nouveau Testament, nous devons comprendre les traditions des auteurs du Nouveau Testament. Or, précisément, Qumran est contemporain du Nouveau Testament.
Avec Michael Langlois, enseignant-chercheur et archéologue, Croire aujourd'hui vous propose une redécouverte des manuscrits de Qumran. Nous allons poursuivre cette découverte. Pouvez-vous nous préciser, vous avez commencé à le faire, en quoi ces découvertes ont des liens avec le Nouveau Testament et notre foi aujourd'hui? Ce sont des découvertes scientifiques de première importance. Alors comment elles nous aident à comprendre ces textes du Nouveau Testament qui nous sont plus familiers aujourd'hui?
De bien des manières. Commençons par le commencement. Au début de l'évangile, il y a des personnages qui sont en scène.
Oui.
Quelqu'un comme Jean le Baptiste, par exemple, il est là, c'est un précurseur du Christ. Et dans le Nouveau Testament, il surprend par son mode de vie. Il vit tout seul, reclus dans le désert, vêtu d'une peau de chameau, mangeant des sauterelles. Et puis, il a une pratique un petit peu surprenante. Les gens viennent à lui pour se repentir et il les baptise. Dans le Jourdain, il les baptise dans l'eau. Et c'est un personnage un peu mystérieux. Eh bien, en réalité, grâce au manuscrit de la Mère Morte, on comprend qu'il n'était pas le seul à avoir cette pratique. Précisément parce que les manuscrits de la Mère Morte nous parle d'une communauté qui s'est éloignée, qui est partie dans le désert et qui s'approprie d'ailleurs le même verset qui est appliqué à Jean-Baptiste. À Jean, on cite le verset d'Isaïe qui dit « Dans le désert, préparez le chemin ». Eh bien, ce même verset est appliqué à la communauté de Qumran. Et donc, on observe le même phénomène, c'est-à-dire la réclusion au désert. Sur le site de Qumran, en outre, on a retrouvé un nombre impressionnant de bains rituels, ce qui permet aux gens de pratiquer un baptême tous les jours. Et les textes nous disent que dans la communauté, on se baptise tous les jours en signe de purification des fautes, de purification pour se purifier des souillures. Donc en réalité, ça veut dire que lorsque Jean annonce ce message, lorsqu'il a ce comportement, lorsqu'il se met à l'écart dans le désert, lorsqu'il invite les gens à se faire baptiser, en réalité, il s'inscrit dans des traditions qui étaient connues, dans une culture qui était connue et que l'on trouve bien attestée dans les manuscrits de la Mère Morte, qui, je le rappelle, sont contemporains du Nouveau Testament. À tel point qu'on a pu se demander d'ailleurs, mais finalement, est-ce que Jean n'a pas vécu dans cette communauté? Est-ce qu'il n'a pas vécu là-bas? Et c'est une très bonne question. Alors, la réponse, on ne l'a pas, malheureusement. C'est-à-dire qu'on n'a pas de preuves qu'il y était, on n'a pas non plus de preuves qu'il n'y était pas. Donc, ça reste une question ouverte. Cela dit, il y a des différences dans ce que le Nouveau Testament nous révèle sur Jean et ce que l'on sait de cette communauté qui aurait pu vivre à Qumran, notamment le fait que lui vit seul et justement pas en communauté, par exemple. Hein.
Par exemple.
Donc c'est quand même... alors, ça veut dire peut-être il y a vécu, mais en tout cas, il en est parti. On s'est posé la même question par rapport à Jésus lui-même. Jésus part dans le désert. Il commence son ministère public, il a 30 ans. On se dit, mais que s'est-il passé avant? Certains pensent que peut-être, pendant les années qui ont précédé, il a pu vivre lui aussi dans une communauté, pourquoi pas celle de Qumran. D'autres pensent peut-être même qu'il s'est fâché. Alors tout ça, c'est, à mon avis, ça devient presque du roman. Donc il faut bien faire attention en tant que scientifique. On essaie surtout de s'appuyer sur les faits, sur les données matérielles à notre disposition. On peut faire des spéculations, mais cela dit, il faut rester prudent et se souvenir que ça reste des hypothèses. En tout cas, on peut là encore voir des parallèles flagrants entre Jésus et Qumran. La communauté de Qumran, dans les textes de Qumran, les textes communautaires, on parle d'un maître, et Jésus se fait appeler maître de la même manière. On parle de la venue du jugement dernier, et Jésus aussi annonce la venue du jugement dernier. Dans les manuscrits de Qumran, on attend la venue du Messie. Donc, vous voyez, tout, et dans les manuscrits de Qumran, on fait allusion à une nouvelle alliance. Or, Jésus, lui aussi, parle de nouvelle alliance. Donc, tout le vocabulaire, toute l'idéologie, on la retrouve. Quand on lit les manuscrits de Qumran, quand on lit le Nouveau Testament, on se rend bien compte qu'il y a une connexion, qu'on parle de la même chose.
Vous venez de nous signaler quelques similitudes entre ce qui a été découvert à Qumran et ce qui apparaît dans la vie de Jésus. Y a-t-il peut-être aussi des différences ?
Oui, c'est vrai. Alors, je vous ai parlé de Jean-Baptiste, je vous ai parlé de Jésus. En réalité, il y a également des différences. On parlait du baptême, on parlait de la Nouvelle Alliance, on parlait de l'attente du Messie. C'est vrai que ce sont des éléments en commun, et en même temps, si on regarde de plus près, on observe des différences. Et ces différences, elles me semblent significatives pour bien distinguer le christianisme du judaïsme. Par exemple, le baptême. Le baptême chrétien, tel qu'il est décrit dans les épîtres, dans l'épître aux Romains notamment, c'est pas simplement un baptême de purification comme celui que l'on pouvait pratiquer dans le judaïsme. Il s'agit pas simplement de se débarrasser des souillures, de se purifier ou de se repentir de ses fautes, pourrait-on dire. Il s'agit d'expérimenter une véritable mort. Le baptême chrétien, c'est un baptême dans la mort, et la mort du Christ. Parce que Christ est mort, nous pouvons nous identifier au Christ et nous pouvons être ensevelis. Le baptême, c'est une sorte d'enterrement.
plongé, comme on dit.
On plonge, on est enterré, et donc on ressort et on commence une vie nouvelle. Alors cette image de la mort et de la résurrection qui est associée au baptême chrétien, elle est totalement absente du judaïsme. Alors on parlait de la mort de Jésus, bien là encore, la mort du Christ est au cœur de la foi chrétienne. On parlait tout à l'heure de la nouvelle alliance. C'est vrai qu'il est question de nouvelle alliance à Qumran, il est question de nouvelle alliance dans le Nouveau Testament, mais dans le Nouveau Testament, la nouvelle alliance, elle a été conclue par le sang du Christ. Là encore, la mort du Christ, le sacrifice du Christ est central dans la foi chrétienne. Cette nouvelle alliance, cette nouvelle vie que je peux expérimenter, que je peux vivre en tant que chrétien, je la vis grâce au sacrifice du Christ, grâce à sa mort. Et donc, cette nouvelle alliance, ce baptême est là pour me rappeler à quel point ce sont des notions centrales.
Donc, pas de confusion avec ce qui était vécu à Qumran.
Non, voilà, pas de confusion. Hein. De la même manière, il est question du Messie, il y a une attente messianique forte dans le Nouveau Testament, tout comme à Qumran. Mais la différence, c'est que dans le Nouveau Testament, on identifie le Messie. On ne l'attend plus parce qu'il est là. Et le Messie, c'est Jésus. Donc pour moi, ça fait une différence extrêmement importante entre l'identité chrétienne qui se forge, qui bien sûr vient du judaïsme. C'est pour ça qu'on a toutes ces similitudes, toutes ces affinités. Les premiers chrétiens sont juifs, le christianisme naît hors du judaïsme, mais il se développe. Et aujourd'hui, le fait d'être chrétien, c'est avant tout confesser la foi dans le sacrifice de Jésus qui, lui seul, me pardonne, me lave de mes fautes et m'apporte la vie éternelle.
Vous venez de souligner des différences importantes entre ce qu'apporte Jésus et ce qui était vécu à Qumran. Et alors maintenant, au XXIe siècle, comment ces découvertes peuvent nourrir notre foi aujourd'hui ?
Alors, je pense que tout ce travail est très intéressant. On vient de parler justement de ce qui fait l'essentiel de la foi chrétienne. Eh bien, se recentrer sur le cœur, l'essentiel de la foi chrétienne, ça me paraît important. Moi, personnellement, ma démarche par rapport à ça, ça a été justement en replaçant le Nouveau Testament dans son contexte historique, dans le cadre du judaïsme de l'époque, ça permet de beaucoup mieux identifier les éléments d'une part qui sont communs, de dire, bon, ce que je le lis dans le Nouveau Testament, mais ça n'est pas propre au Nouveau Testament, et puis surtout, du même coup, d'isoler les éléments qui sont propres au christianisme et qu'on ne trouve pas à l'époque, qui sont sans parallèle à l'époque. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de mieux définir ou redéfinir la foi chrétienne aujourd'hui. Et je pense qu'en tant que croyant, on a besoin de se définir, de savoir quelle est mon identité. Je suis chrétien, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Et pour moi, être centré sur l'œuvre du Christ, sa mort et sa résurrection, pour moi, c'est quelque chose d'important aujourd'hui en tant que croyant. Un autre apport peut-être de ces manuscrits pour la foi aujourd'hui au XXIe siècle et pour nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, c'est par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport au texte de la Bible lui-même, le fait qu'on ait découvert des manuscrits qui présentent des différences, des variantes. Mm-hmm. Ça me paraît important parce que ça nous permet de mieux comprendre comment la Bible a vu le jour. Et surtout, ça nous permet de bien se rendre compte que la Bible n'est pas tombée du ciel et qu'on ne peut pas la lire naïvement en ouvrant au hasard une page, en pointant un verset du doigt et en lisant un verset hors de son contexte. Ça nous rappelle qu'on ne peut pas lire un texte en dehors de son contexte. Sinon, on peut lui faire dire n'importe quoi. Et aujourd'hui, je crois que c'est très vrai au XXIe siècle où on fait face à tellement d'approches parfois fondamentalistes du texte biblique. C'est vrai pour d'autres religions, c'est pas propre au christianisme. Mais disons, dans chaque religion, en particulier les religions qui se focalisent sur des textes qui sont qu'on estime sacrés. On parle souvent des religions du livre, du judaïsme, du christianisme, de l'islam, comme étant des religions du livre. Eh bien, je m'interroge, je me dis finalement, en tant que croyant, est-ce que vraiment je peux dire, moi, en tant que chrétien, le christianisme, c'est une religion du livre? Je ne suis pas sûr, finalement.
Oui, on dit même que ce qui différencie le christianisme, c'est que c'est une religion qui nous met en relation avec la personne du Christ et pas avec le livre.
Exactement, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que ces découvertes de Qumran nous rappellent cela, nous rappellent que ces textes sont fondamentaux, la Bible est au cœur de notre foi, et c'est pour ça que, pour ma part, je passe mon temps à l'étudier et à l'enseigner. Donc j'ai vraiment une passion passion pour la Bible, j'essaie de comprendre au mieux les textes bibliques, de les replacer dans leur contexte, d'étudier les variantes qui peuvent exister entre les différents manuscrits, mais surtout, ça m'incite à être prudent avant d'ériger la Bible comme étant une sorte d'autorité suprême, intouchable, qui soit parfaite à la virgule près. Je me dis, ben non, justement, on n'a aucun manuscrit qui puisse avoir revêtir une telle autorité, et ça veut dire que l'objet de ma foi, ça ne peut pas être la Bible. La Bible, elle est un moyen par lequel Dieu me parle, mais ça n'est pas le centre ou l'objet de ma foi. L'objet de ma foi, c'est une personne, c'est le Christ. Et ça, je crois que c'est important aujourd'hui de s'en souvenir et peut-être de se fortifier encore dans cette perspective, de se dire aujourd'hui, ma foi n'est pas une foi impersonnelle, une foi focalisée sur un livre. Ma foi est une foi personnelle. Et la personne qui fait l'objet de ma foi, c'est le Christ. C'est lui qui est la parole de Dieu incarnée. Ça n'est pas la Bible.
Eh bien, merci pour tout ce que vous nous avez apporté, pour cet éclairage sur les textes de la Bible, si important pour notre foi aujourd'hui. Et merci à Jean-François, notre technicien.